Bonjour et bienvenue à ce troisième module du chapitre sur les éléments pratiques d'intervention diététique. Peut-être pourrais-je dire que c'est un module moins crucial, moins important que les autres. Il est fait de beaucoup de calculs qui, dans bien des cas, ne sont pas nécessaires, mais il est indispensable de traiter de ces éléments plus quantitatifs dans un cours sur l'alimentation chez la personne qui vit avec le diabète. Nous allons donc parler de l'indice glycémique, du calcul des glucides, pas toujours nécessaire, je le disais, et des systèmes d'échange alimentaire dans la diététique du diabète. Quelques remarques préliminaires à propos de l'index glycémique. D'abord, il importe de tenir compte non seulement de la quantité de glucides dans l'alimentation, mais aussi de leur qualité, surtout dans l'alimentation de la personne diabétique, mais pas uniquement. Même pour l'alimentation santé de toute personne, la qualité des glucides entre en jeu comme facteur important de prévention de maladies liées à la nutrition. L'indice glycémique doit maintenant remplacer la notion assez dépassée des sucres lents et des sucres rapides. Choisir les aliments glucidiques à faible indice glycémique est une approche utile tout en étant relativement simple. Dans la prise en charge comme dans la prévention du diabète, mais cet outil présente des limites importantes, car il ne tient pas compte de la quantité totale de glucides dans les aliments ou dans le repas. C'est pourquoi la charge glycémique est encore plus importante que l'indice glycémique dans la diététique du diabète. Les aliments à indice glycémique élevé ont un impact marqué sur le sucre sanguin et l'insuline, et ce faisant, ils augmentent aussi les risques de surpoids, d'obésité, de maladies cardiovasculaires et de certains cancers, outre le diabète, d'où l'importance de cette notion, de cet outil, dans l'alimentation normale, l'alimentation santé. Le calcul des glucides et le recours au système d'échange dont il sera question plus loin ne sont pas indispensables. Ils sont surtout utiles pour les patients sous insuline. Alors revenons sur l'indice glycémique. Certains l'appellent index glycémique. Il faut dire que c'est une notion assez récente qui a sous bien des aspects révolutionner les pratiques diététiques, surtout dans le diabète. Cet indice définit la réponse glycémique à un aliment par rapport à la réponse qui suit l'ingestion d'une quantité standardisée de glucose ou de pain blanc. Les régimes alimentaires à faible indice glycémique améliorent le contrôle de la glycémie chez des patients avec un diabète de type 1 ou 2. Et nous avons vu dans l'évidence scientifique à l'appui des recommandations que l'indice et la charge glycémique avaient une importance dans la prévention du diabète. Alors, quelques précisions sur l'indice glycémique. Je le disais, c'est l'effet sur la glycémie de l'ingestion d'une portion précise d'un aliment donné, c'est-à-dire portion qui contient 50 g de glucides, sans compter les fibres, bien sûr, comparé à la réponse suite à l'ingestion d'une même quantité de glucose ou de pain blanc qui contient cette quantité de glucides. On utilise le glucose en Europe et le pain blanc aux États-Unis comme valeur de base, point de repère, pour déterminer en pourcentage l'indice glycémique d'autres aliments. Attention, l'indice glycémique est très instable puisque de nombreux facteurs vont le modifier. La présence de protéines et de fibres diminue l'indice glycémique. C'est pourquoi les céréales à grains entiers, par exemple, ont un indice glycémique plus bas que les produits raffinés. Ensuite, il y a deux formes d'amylo, l'amylose et l'amylopectine. L'amylopectine, qui gélifie dans la cuisson, a un effet d'augmentation sur l'indice glycémique. C'est pourquoi les légumineuses qui en contiennent peu, ont un indice glycémique plus bas que les autres féculents. Alors que les cuissons à sec diminuent l'indice glycémique, des longues cuissons dans beaucoup d'eau tendent à augmenter l'indice glycémique. C'est pourquoi la cuisson al dente est préférable à des longues cuissons, de ce point de vue. Ensuite, et c'est un point important, le broyage, le mixage et l'extrusion sont des procédés qui augmentent l'indice glycémique. C'est pourquoi les aliments non transformés ou peu transformés sont préférables. L'Ayat, dans un article qui vous est recommandé et dont les propriétés vous seront précisées plus tard, a fait un excellent travail sur ces facteurs qui modifient l'indice glycémique. Je vous rappelle que l'indice glycémique, bien sûr, ne s'applique qu'aux aliments qui contiennent des glucides. Ceux qui n'en contiennent pas n'ont pas d'indice glycémique. Viande, volaille, poisson, enfin les denrées d'origine animale, sauf le lait non transformé. Sachez que les denrées protidiques animales n'en contiennent pas, alors que les denrées protidiques végétales, telles que légumineuses, noix et oléagineux, les graines, en contiennent les glucides. Alors, les aliments qui en contiennent, céréales féculents, légumineuses, oléagineux, graines, fruits et légumes et leurs jus, lait et yaourt. Et vous avez des aliments concentrés en sucre ou additionnés de sucre. Le sucre lui-même, les sirops. Le miel, les gâteaux, biscuits, pâtisseries, tout ce qui est sucré au goût, quoi. Alors, vous avez ici un tableau où on classe les aliments en fonction d'un indice glycémique bas à droite, et ce sont ceux sur lesquels on doit insister dans l'alimentation de la personne qui vit le diabète. Ceux d'indice moyen et ceux d'indice élevé à gauche. Maintenant, attention, un bémol, d'autres tables peuvent donner des valeurs légèrement différentes. Mais ce qui est important de noter, c'est que tous les légumes ont un indice glycémique bas, d'où leur intérêt. Les légumineuses, oléagineux, noix et graines, également faible indice glycémique, incluant le soja et dérivés. La majorité des fruits et les céréales à grains entiers, de même que les pâtes et quelques autres féculents. À l'inverse, notez que parmi les céréales féculents et dérivés, la baguette, le pain blanc, les gaufres, les pommes de terre, le riz blanc cuisson rapide, les céréales extrudées genre cornflakes ont un indice glycémique élevé. On continue. Parmi les produits laitiers, ceux qui ne contiennent pas de sucre ajouté ont en général un indice glycémique bas. Et vous noterez que certaines sucreries ont un indice relativement bas, mais attention, comme nous l'avons déjà dit, il n'y a pas que l'indice glycémique, il y a la charge glycémique qui importe et nous y revenons immédiatement. Je voulais vous signaler qu'il y a une très intéressante roulette d'indice glycémique et assiette santé qui a été produite par la Fédération internationale du diabète. J'espère qu'un jour ce sera en français, mais pour l'instant, malheureusement, ça n'existe qu'en anglais. Alors, l'indice glycémique, malgré son importance, présente des limites à ne pas négliger. La valeur de l'indice d'un aliment donné dépend non seulement de la teneur, mais aussi du type de glucides, des autres composantes de l'aliment, des boissons et autres aliments consommés en même temps, du degré de transformation des aliments, et on a vu comment les différents procédés modifiaient l'indice glycémique. Et aussi, l'indice glycémique varie suivant les individus. L'indice glycémique ne tient pas compte de la teneur de l'aliment en glucides, ni des autres composantes du repas. Il est donc préférable de se fier à la charge glycémique de l'aliment, du plat ou du repas, puisqu'alors on tient compte de la quantité totale de glucides. Alors, un exemple. Vous avez une portion de 30 g d'arachide dont l'indice glycémique est bas, 14. Les arachides contiennent 10 % de glucides. Alors, la charge glycémique, c'est l'indice glycémique, 14 % multiplié par la quantité de glucides dans la portion, auquel cas nous avons un résultat de 3, de sorte que la charge glycémique est de 0,42 au lieu de 14 pour l'indice glycémique. Alors, la charge glycémique d'un repas serait la somme des indices glycémiques des aliments spécifiques multipliés, pondérés, par la quantité de glucides dans les portions des différents aliments consommés. On n'a pas besoin de faire tous ces calculs. Ils ne sont décrits ici qu'à titre indicatif pour une meilleure compréhension. Il suffit de privilégier les aliments à faible indice glycémique et faible teneur en glucides, sauf si le calcul des glucides est indiqué. Donc, privilégier les aliments à faible indice glycémique et faible teneur en glucides. Est-ce qu'on doit compter les glucides? Eh bien, pour les adultes prenant d'insuline, il est indispensable de faire un décompte des glucides afin d'équilibrer l'apport avec l'insuline et ainsi éviter les hypo- et les hyperglycémies. Autrement, une règle simple est de puiser ces glucides dans les aliments à faible indice glycémique et surtout à faible charge glycémique, qui sont généralement peu ou non transformés et contiennent peu de sucre, de gras ou de sel ajouté. Alors, on parle là de fruits et légumes, céréales à grains entiers, légumineuses, noix et graines, produits laitiers faibles en gras. Alors, voilà l'orientation générale, sans avoir à compter. Maintenant, si on devait compter ou à titre indicatif, voici la quantité moyenne de glucides par repas, sans inclure les collations, qui serait à estimer suivant le sexe et suivant le statut pondéral. Si on a besoin de perdre du poids, bien sûr, le nombre de grammes de glucides à consommer serait plus bas. Alors, pour le maintien du poids, alors nous voyons que le nombre de grammes de glucides par repas va de 60 minimum chez les femmes à 90 maximum chez les hommes. On trouvera plus loin avec le système d'échange la teneur en glucides des différents aliments glucidiques. L'important est donc une répartition aussi juste que possible, régulière que possible, des glucides sur les repas de la journée. Il existe différents outils permettant de calculer rapidement l'apport en énergie et en macronutriments d'une personne ou d'un plan d'alimentation qu'on veut recommander à une personne. C'est ce qu'on appelle le système d'échange, où on a standardisé, si vous voulez, les échanges des différents aliments pour ce qui est de leur valeur nutritive. Mais attention, si un échange correspond en gros à 15 g de glucides, un échange n'est pas forcément une portion. On le verra par exemple pour les céréales et féculents. Une portion représente généralement beaucoup plus qu'un échange. Alors, un échange correspond grosso modo, je le disais, à 15 g de glucides. Un échange de féculents, un échange de fruits. Pour ce qui est des légumes, les légumes étant plus faibles en glucides, c'est 5 g de glucides par échange. Lait substitue 12 à 15 g. Autres aliments, bon, c'est variable. On les inclut dans certains guides alimentaires pour personnes diabétiques. Je n'en tiendrai pas compte ici parce que les quantités et les variantes sont trop importantes. Alors, nous avons les viandes et substituts et les matières grasses qui seront calculées dans le régime calculé, mais qui ne contiennent pas de glucides. Alors, nous voyons pour un échange de viande, par exemple, il y a des protéines et bien sûr l'énergie avec des lipides. Et pour les matières grasses telles que l'huile ou le beurre, il n'y a que des lipides et bien sûr de l'énergie également. Alors, ce petit tableau peut vous aider à calculer grosso modo votre apport, pourvu que vous connaissiez les tailles de portions correspondant aux échanges. Alors, voici, à titre indicatif, un exemple de répartition quotidienne des échanges de glucides, alors pour un régime calculé de 2000 calories. Alors, le nombre d'échanges total par jour serait pour les céréales féculents de 12, pour les légumes de 6, les fruits 3, les produits laitiers 1. Bon, ceci étant compatible avec une alimentation santé, bien sûr. Nous avons là le nombre de glucides équivalents. Par exemple, 12 échanges de céréales féculents multipliés par 15, eh bien, théoriquement, ça fait grosso modo 180. Et ensuite, nous avons la répartition des différents échanges pour les repas et éventuellement une collation. Alors, nous avons les calculs en bas qui sont faits. En passant, 12 échanges de céréales, légumes et féculents peuvent vous sembler énormes, mais c'est que un échange est beaucoup moins qu'une portion habituellement consommée. Alors là, pour cette planification en question, les glucides représentent au total 225 grammes pour 900 kilocalories, et ceci représente donc 45% des kilocalories totales, ce qui est généralement recommandé. Nous n'avons pas inclus ici les denrées protidiques animales et les matières grasses, puisqu'elles ne contiennent pas de glucides, par souci de simplification. Alors, voyons maintenant à quoi correspondent les échanges des différentes catégories d'aliments. Vous avez pour les céréales et féculents un échange qui correspond à un tiers à une portion. Et vous avez ici les quantités approximatives pour les différents aliments de ce groupe. Alors, par exemple, la bouillie, eh bien, 125 ml ou une demi-tasse est rarement une portion. Ce sera davantage une demi-portion ou même un tiers de portion. Alors, ce tableau pourrait vous servir de guide éventuellement pour aider les patients à s'y retrouver. Peut-être un autre exemple. Le couscous cuit, le riz cuit, les pâtes cuites. Un échange égale un tiers de tasse ou 75 ml. Vous imaginez bien qu'une portion, c'est 3 ou 4 fois cette quantité. Donc, attention, l'échange ne correspond pas toujours à la portion. Dans le cas des légumineuses et oléagineux, je vous rappelle qu'ils contiennent des glucides, mais aussi des protéines. Les légumineuses, dont vous avez quelques exemples ici, eh bien, la quantité d'un échange ou une portion, dans bien des cas, un demi-bol, une demi-tasse. Et pour les graines oléagineuses, un échange, c'est une petite poignée. C'est bien peu, par exemple, pour les arachides. On a tendance plutôt à en prendre 2 ou 3 fois cette quantité. Je signale ici que les légumineuses et oléagineux peuvent remplacer les viandes en raison de leur contenu en protéines. Mais comme ces aliments contiennent aussi des glucides, il faut en tenir compte dans le décompte des glucides. Et les graines oléagineuses, vous le savez, qu'il s'agisse des arachides, des graines de sésame, graines de courge, etc., contiennent en outre du gras. Alors attention, parce que le gras, c'est de l'énergie concentrée, et lorsqu'on doit perdre du poids, il faut aussi faire attention au gras. Alors, un échange ou une portion généralement de fruits, vous avez ici les différents fruits, avec la grosseur de la portion ou l'échange. Une illustration tirée de travaux qui ont été faits par ma collègue Amélie Sabourin au Bénin. Alors, vous avez ici à quoi correspond visuellement un échange de glucides. Un quart de petit ananas, une orange, une demi-banane, puisque une banane complète représente 2 échanges, et une mangue complète qui représenterait 3 échanges, donc c'est un tiers de mangue. Une cuillère à soupe de sucre contient également 15 grammes de glucides, mais regardez, une boisson sucrée que vous appelez sucrerie, bouteille, petite bouteille là, eh bien, ça correspond à trois échanges de glucides. Alors, vous voyez, c'est du sucre concentré. Alors, la portion de légumes correspond généralement à un échange. Et alors, la consommation peut être assez libérale parce qu'une portion contient généralement que 5 grammes de glucides. C'est pourquoi on ne restreint pas les légumes, sauf peut-être les légumes racines, tels que les carottes, courges, betteraves, patates douces, qui sont plus concentrées là en glucides. Pour ce qui est des produits laitiers, vous avez ici les équivalences en échange ou portions de différentes variantes de produits laitiers. Il vaut mieux les yaourts nature, bien sûr, que les yaourts sucrés ou aux fruits. Et vous avez aussi pour les différentes sortes de lait, les grosseurs correspondantes à un échange ou une portion. Un type d'outil qui peut être utile dans certains cas, mais surtout pour les patients sous insulinothérapie intensive, c'est le rapport entre apport en glucides et insuline, puisque avec cet outil, les personnes sous insulinothérapie intensive peuvent ajuster leur dose d'insuline pré-repas à la quantité de glucides prévue dans le repas. Alors, si la personne prévoit, par exemple, d'avoir 30 grammes, deux échanges de glucides dans le repas, eh bien, elle pourra déterminer combien d'unités d'insuline, si elle prévoit 30 grammes d'insuline, ce serait en général 2 unités d'insuline. Et je dis bien en général, car ce ratio varie considérablement en fonction du poids. Chez un adulte de poids normal, 1 unité d'insuline permet donc de neutraliser, si vous voulez, de traiter 10 à 15 grammes de glucides. Mais chez l'individu en surpoids, en raison de la résistance à l'insuline, 1 unité d'insuline permet de traiter, si vous voulez, de métaboliser moins de glucides, 7 à 10. Et ce ratio est encore plus mauvais, je dirais, chez l'adulte obèse, puisque alors, 1 unité d'insuline permet de métaboliser seulement 5 grammes de glucides. Mais comme je vous le disais, ceci n'est peut-être pas d'application pratique immédiate, puisque rares sont les patients, peut-être, dans vos services, dans vos clientèles, qui ont accès à l'insulinothérapie intensive. Alors, je vous rappelle une lecture intéressante et utile sur l'indice glycémique de l'AIA que vous trouverez dans le dossier de lecture. D'autres ressources en français? Il y a cette publication sur les glucides en diabétologie qui était en lecture recommandée dans le chapitre dans un module précédent ou un chapitre précédent, mais vous l'aurez parmi les articles à votre disposition. Alors, ceci termine ce module et termine le chapitre sur les outils ou les éléments pratiques d'intervention diététique. J'espère que le tout vous aura été utile et je vous remercie.